Ok, donc on va démarrer le Perek Memzaïn, chapitre 47. Chapitre 47, c'est page 132. Petite introduction avant de démarrer le chapitre donc 37, qui est d'ailleurs le chapitre le plus petit du Tanya. Ouais, 47, c'est lui qu'on va commencer. C'est le plus petit du Tanya, en tout cas de la première partie du Tanya. On avait dit plusieurs fois que le Tanya est découpé en 5 sections. Dans la section Likutamarim, le chapitre le plus petit, c'est le 47. Le plus long, je crois que c'était le 42, si je ne me trompe pas, le 41 ou 42. Donc, petite introduction. On avait développé longuement dans le chapitre 46, le concept de Akarat Atov. Kemaim apanim apanim kenev adam la adam. Que c'est un phénomène naturel que Kadosh Baruch Hu a créé. Que lorsqu'on fait du bien à quelqu'un et qu'on lui montre qu'on l'aime, naturellement, cette personne va nous renvoyer cet amour. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite, mais naturellement, ça va se faire. Ça, c'est le concept avec lequel c'est le concept qu'on a expliqué. Donc on avait amené un exemple, hein, l'exemple qui est revenu plusieurs fois, l'exemple du roi qui va prendre quelqu'un qui est défavorisé et qui va le faire entrer dans son palais et qui va le favoriser encore plus que ses ministres. Donc on a dit que même si cette personne est défavorisée, ben, naturellement en général ils sont toujours très durs de caractère et très renfermés, on a dit que c'est sûr qu'à un certain moment il va craquer et il sera reconnaissant envers le roi. Il sera reconnaissant. Au moins, il dira merci. Il fera juste de la reconnaissance. Donc, on avait expliqué de la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu. De la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Justement, on va devoir développer ce concept parce qu'il y a beaucoup de détails. Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. On était des gens défavorisés. Ils ne nous devaient rien du tout. Ici, il y avait des gens qui font les mitzvot et les malachim qui savent le faire beaucoup mieux que nous. Kadosh Baruch Hu, quand on était en Égypte, on était défavorisés et il nous a pris. Qu'est-ce qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu? On a dit qu'il nous a donné les mitzvot. Quand il nous a donné les mitzvot, c'est un privilège qu'il n'a pas donné même pas à ses malachim, même pas à ses ministres. Il a donné qu'à nous ce privilège. Ce privilège de faire les mitzvot. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Asher ki deshanu be mitzvotav, on avait expliqué. Quand on fait une mitzvah, deux explications.
On est sanctifié, dans le sens réservé.
Voilà, ça veut dire on est réservé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, premièrement, on fait descendre à Kadosh Baruch Hu chez nous. Comme le mari qui descend vers la femme quand on se marie. Et deuxièmement, on est propulsé vers la Kadosh Baruch Hu. Ça, on a expliqué que c'est un fait qui se passe, qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas. C'est pour ça que qu'on avait amené la halakha qui dit que quand je suis devant une personne qui fait une mitzvah, par exemple dans une brit mila, je me lève. Pourquoi je me lève? Même bien que c'est possible que celui qui est en train de faire la mitzvah soit un ignorant et qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait. Parce que dans les faits, quand il fait la mitzvah, il y a ces deux phénomènes qui se passent. Qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Donc ça, c'est le phénomène de Kemaim Apanim Apanim. Kenlev Adam l'Adam. Il y a d'ailleurs une histoire qu'on raconte avec Rabbi Simcha Bounim de Vorka. Vorka, c'est une ville en Pologne. Et une fois, il y a un de ses élèves qui n'était pas bien. Il n'était pas bien. Spirituellement, il n'allait pas bien. Il a réfléchi. Et il est arrivé à la conclusion. Il a dit à son Rabbi, Rabbi Simcha Bounim, il lui a dit, je pense qu'il faut que je fasse l'Alia. Je pense que quand je suis en galoute, ça me... Je sais pas, ça se sentait mal. Bon. Rabbi Simcha Bounim, il lui a dit, si tu penses que c'est la conclusion que tu es arrivé, qu'il faut faire ta alia, fais ta alia, il n'y a pas de problème. Fais ta alia. Vous savez, dans les temps, vivre en Israël, c'est très très dur. C'est très très dur d'avoir une parnassa, même de vivre. C'est très très dur. Donc il est parti, quelques mois, et il est revenu. Et quand il est revenu, Rabbi Simcha Bounim de Vorka, donc son maître, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Rabbi, pourquoi vous pleurez? Et il lui a dit, je vais te dire pourquoi je pleure. Je pleure parce que Jérusalem ne t'a pas aimé. Il n'a pas compris, il a dit, c'est moi qui n'ai pas aimé Jérusalem, parce que Jérusalem ne m'a pas aimé. Et Rabbi lui a dit le chose suivante, je l'ai répété ce pasouk-là. Kemaim apanim apanim kenlev adam la adam. Que normalement, si Jérusalem t'avait aimé, naturellement tu l'aurais envoyé un sentiment d'amour. Que tu n'arrives pas à débrouiller à Jérusalem, c'est une chose. On a des gens qui n'arrivent pas à se débrouiller, et ils vont partir avec regret. Mais lui, ce qui s'est passé avec son chassid, c'est que quand il est parti de Jérusalem, il est parti avec un petit peu un dégoût. Pas un dégoût, mais bon, il n'a pas accroché, quoi. Il sentait ça, le rabbi. Il sentait que son chassid, c'est pas qu'il est parti parce qu'il avait des problèmes de parnassa. Il y a des fois des gens qui vont quitter une situation parce que bon, il n'a plus les moyens. Ça, c'est une chose. Lui, il lui a dit, j'ai senti que, Kemayu Apanim Apanim, Kenlev Adam la Adam, puisque tu n'as pas de, puisque je vois que tu n'as pas de sentiment vers Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem ne t'a pas aimé, donc ça me fait de la peine. Alors, maintenant, ce qu'on va attaquer dans le chapitre 47, c'est un point très important. tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a expliqué en trois cours? Là, expliqué longuement, on est à la page 132. Qu'est-ce qu'on a expliqué longuement? On a expliqué qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a pris quand on était défavorisé, il nous a fait sortir d'Égypte. Avec tout le spectacle qu'il y avait autour de la sortie d'Égypte. Bon. Tout ça, c'est bien beau peut-être à l'époque. C'est vrai, quand on lit l'histoire, à l'époque, imaginez-vous, on a vu clairement comment Akadosh Baruch Hu s'est manifesté. Il était dans la galère, Dieu il est venu, il a fait des miracles, des merveilles, les Égyptiens ne les laissaient pas sortir, il leur a fait des miracles, il a montré clairement qui était le patron. D'accord ?
Pourquoi c'est
aujourd'hui, alors voilà, en quoi ça, alors tu me dis que c'est passé 2000 ans, je veux bien y croire, mais en quoi, d'abord, en quoi ça me concerne moi, et surtout qu'on ne voit plus de phénomènes comme ça aujourd'hui. On va prendre l'exemple de la Shoah. Imaginez-vous si Dieu se serait manifesté une fois dans la Shoah, avec une des Makotes, comme il a fait en Égypte. Ça n'aurait pas été la même chose. C'est clair, tout aurait changé. Regardez par exemple le conflit israélo-palestinien. Hein ? Israélo-arabe. Parce que Palestine, ça n'existe pas.
Non, c'est qu'on change de mesure. Israélo-palestinien, c'est les pauvres les Palestiniens. Israélo-arabe, c'est...
Les pauvres les Israéliens.
Mais voilà, le monde arabe contre Israël.
D'accord, donc c'est le conflit, bon, mais en général, on est dans le monde israélo-palestinien.
Oui, même. Pour un...
Le conflit israélo-arabe. D'accord ? Encore une fois, pourquoi il y a ce conflit-là? Parce que Dieu ne se manifeste pas. Nous, on sait, on dit que Eretz Israël, ça nous appartient, et que la terre d'Eretz Israël, ça nous appartient, et que, d'accord, les Arabes disent aussi, ça nous appartient. D'accord, donc, on arrive devant le mur. C'est comme en Égypte. Pharaon, il dit, je ne vais pas vous laisser sortir, et j'ai fini, on veut sortir. Donc, on était devant un mur. Quand on arrive devant un mur, il n'y a pas de solution. La seule solution, qui c'est qui peut donner la solution? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui va faire un signe, et qui va montrer, qui va dire, moi je vais vous montrer qui est le patron ici. Aujourd'hui, on n'a plus ces phénomènes-là. C'est sûr qu'on a, attention, je dis pas qu'on ne voit plus Akadosh Baruch Hu. Je dis pas qu'on voit plus Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que dans tous les miracles qu'ils peuvent avoir, hein, tous les miracles qu'on va avoir aujourd'hui, c'est des miracles qu'on peut expliquer comme n'étant pas un miracle. Par exemple, voilà, vous allez me dire la dernière guerre qu'il y a eu en Israël, on a vu qu'ils ont eu une réussite particulière. Nous, on prend ça comme un miracle. Mais est-ce que le monde est obligé de prendre ça comme un miracle? Pas forcément. On peut prendre ça comme de la chance, quand même. Il n'y a pas une manifestation claire de Dieu. D'accord? Mais vous allez me dire la guerre des six jours. On a vu qu'ils ont eu un coup de chance. Nous, on sait que c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas une manifestation claire d'Akadosh Baruch Hu. Tous les peuples disent, c'est sûr qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière, il nous a montré qui était le patron. Il n'y a pas eu.
On aurait fait des clients.
Bien sûr qu'on aurait fait des clients.
Il y a un truc comme ça.
Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Donc ne... Bonsoir. Akadosh Baruch Hu ne se manifeste plus aujourd'hui. D'ailleurs, en passant, Rabbi Meir de Primichlan, il disait la chose suivante. Il disait que... Comment ça se fait que le sort du Seder, on va faire toutes sortes de simanim pour se rappeler de l'esclavage, comme on était en Égypte, pour se rappeler de la sortie d'Égypte, pour se rappeler des tas de choses. Pourquoi on ne fait pas un siman pour se rappeler de la richesse qu'on avait quand on est sorti d'Égypte? Alors certes, le Shulchan Aruch, il dit que la table de Pessah, en général, on doit la faire la plus belle possible. Mais on n'a pas fait de siman.
Quand on boit sa soudée, c'est...
Non. Un siman de liberté. Non. On n'a pas fait un signe pour la richesse. Il n'y a pas de signe. On a fait zéro signe. Il n'y a pas eu un signe. On a dit, par exemple, il faut acheter un truc en or. Pour sera signe de la richesse. Pourquoi? Alors regardez ce qu'a répondu Rabbi Meir de Primichlan. Rabbi Meir de Primichlan, il a dit, sur toutes les autres choses, on fait un signe, parce que les autres choses sont restées encore là.
Oui,
par exemple, l'esclavage d'Égypte. on sait encore ce que c'est, comme on va expliquer aujourd'hui. Spirituellement, on sait ce que c'est. La sortie d'Égypte, on sait ce que c'est. D'accord? La liberté, on sait ce que c'est. Mais la richesse qu'il y avait quand on est sorti d'Égypte, il ne reste rien. Elle a disparu, celle-là. C'est pour ça qu'on fait pas de
On l'a dépensé.
Je sais pas si on l'a dépensé ou...
on nous l'a volé.
Alors, donc là, ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est qu'on va essayer de répondre à cette question, on va essayer d'expliquer comment la sortie d'Égypte... Enfin, voilà ce qu'on avait expliqué. On avait expliqué... Yves, tu as de la dame rote ici.
Ouais, ce que je vois, elle est belle en plus.
Je crois que c'est la première chose que tu as remarqué. Hein.
Exactement. Moi, je croyais que c'était pour moi. Tu venais t'asseoir à côté de moi. Je me suis dit, voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Bien sûr.
Le premier, c'était ça.
Bien sûr.
Merci. Donc,
Donc comment on va faire pour...
Donc nous, le problème qu'on a, comme on a dit, c'est que nous on avait donné l'exemple du roi, on avait expliqué dans l'exemple du roi comment Akadosh, le roi va s'occuper donc, de la personne défavorisée, et que la personne défavorisée sera obligée d'être reconnaissant envers donc, le roi. Donc on va arriver à l'idée de dire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, donc à un certain moment, il faut être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, ça peut être le moteur qui va nous pousser à faire les mitzvot. De dire que même si j'ai pas envie de faire, même si je ressens rien, mais je dois avoir une certaine reconnaissance. Alors, comme on l'a dit, le problème qu'on a, c'est que cette histoire de sortie d'Égypte, c'était peut-être valable à l'époque, d'accord ? Ça veut dire que les gens, ils sentaient comment ils sont sortis d'Égypte, mais aujourd'hui, ça ne nous concerne plus. Donc, aujourd'hui, comment tu veux que je ressente que je dois quelque chose à Kadosh Baruch Hu ? Au contraire. Aujourd'hui, la logique, comment les gens y réfléchissent, c'est Dieu qui me doit quelque chose. Comment les gens y réfléchissent aujourd'hui ? C'est Dieu qui me doit. Oui, j'ai fait les prières, oui, j'ai fait les misères, c'est lui qui me doit. Alors que là, on est en train de dire que normalement, on devrait arriver à un sentiment contraire. Au sentiment de dire que c'est moi qui dois quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Alors peut-être il y a 2000 ans, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient ce sentiment, et ils ont vu qu'ils étaient propulsés. Mais nous, on n'a pas ce sentiment. Comment on peut faire pour arriver à ça ? C'est pour ça qu'il commence à demander à Zakhaï, il dit la chose suivante, Déiné. Bechol dor vador. Dans chaque génération. Ou bechol yom vayom. Et chaque jour. Chayab Adam, l'irod et tatmo. Un homme a l'obligation de se voir, de s'imaginer. Keilu ou yata hayom mimitsraim. Comme si qu'il était sorti aujourd'hui d'Égypte. Alors, c'est presque l'Agada.
Presque. Yom, ça y est pas.
Tout d'abord, dans l'Agada, d'accord ? Dans l'Agada, qu'est-ce qu'on dit ? On dit dans chaque génération, un juif doit s'imaginer comme si qu'il était sorti d'Égypte. D'accord ? Là, ici, on rajoute des détails. On a dit dans chaque génération et chaque jour.
Oui, c'est vrai. C'est
pas seulement ça. Un homme a l'obligation de s'imaginer comme si qu'il était sorti aujourd'hui d'Égypte. Beaucoup de détails. Pour d'où ils viennent tous ces détails-là ? D'où ils viennent ? D'où on sait que c'est... Il faut se rappeler tous les jours. D'accord ? Alors, la réponse est très simple. D'accord ? C'est parce que qu'est-ce qu'on dit dans le schéma ? Troisième paragraphe du schéma, c'est quoi ? C'est la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est écrit le man tiskor et yom tzitcham eretz mitzrayim kol yemei chayecha. Pourquoi on lit la troisième partie du schéma ? Les deux premières parties du schéma, comme on l'a expliqué ce matin, hein, ça je grave pratique. Les deux premières parties du schéma, c'est écrit. La première partie du schéma, c'est écrit, tu la diras, Beshar Becha ou Fumecha. Lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas te lever. Donc, je comprends qu'il faut la lire. La deuxième partie du schéma, c'est écrit aussi le mot Beshar Becha. Beshar Becha ou Fumecha. Donc là, je comprends qu'il faut lire le schéma aussi. Cette deuxième partie aussi, il faut la lire le matin et le soir. La troisième partie du schéma, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi je dois la lire, cette partie du schéma ? Parce que c'est écrit, le man tiskor et yom tzitcham eretz mitzrayim kol yemei chayecha. Dieu nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte, du jour de la sortie d'Égypte, chaque jour, kol yemei chayecha, c'est-à-dire tous les jours de ta vie.
Tous les jours, c'est toutes les nuits aussi.
D'accord ? Voilà. Alors, kol yemei chayecha, voilà, donc on lit dans la Gada.
C'est la Gada, voilà. Tous les jours, c'est...
D'accord ? Donc, yemei chayecha yamim, quand, etc., qu'on on rajoute,
et chachamim,
la vie l'imot ha-mashiach. Bon. Ça veut dire que, de là, on voit qu'on a l'obligation. C'est bien la Gada, après j'aime. C'est le début de la Gada.
Je reste encore réveillé.
C'est quand on va doucement encore. C'est quand les enfants ils ont pas encore tout renversé.
Voilà,
on
connaît, Merci pour
vous. Donc, kol yemei chayecha. Donc de là les chachamim ont appris. De là les chachamim ont appris que il faut se souvenir tous les jours et les nuits de la sortie d'Égypte. Donc tant qu'à faire, on l'a groupé avec le. Avec le schéma. Donc, nous dit l'Admor HaZaken, puisque tu me dis dans la Haggadah que dans chaque génération, je dois m'imaginer comme si je suis sorti d'Égypte, puisque moi, j'ai lu le schéma, et j'ai lu aussi le Lema Antiskor, la misa que tu me dis qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, tous les jours de ma vie, donc je comprends que l'injonction que tu me donnes, que dans chaque génération, je dois me voir comme si je sors d'Égypte, c'est une injonction qui est applicable tous les jours. Comme on va expliquer, c'est-à-dire que tous les jours, je dois m'imaginer comme si je sors d'Égypte. Alors, ni moi je sais ce que c'est l'Égypte, j'ai jamais été en Égypte, alors c'est quoi cette histoire ? Alors, halakhiquement parlant, l'obligation est que le sort du Seder. On est bien d'accord. Halakhiquement parlant, l'obligation de se sentir qu'on sort d'Égypte, c'est que le sort du Seder. Mais il nous dit, c'est la demande à Zaken, que quand on analyse le schéma, on voit que c'est bien, c'est conseillé de s'imaginer qu'on sort d'Égypte, d'accord, chaque jour. Comment tu veux que je... Alors, et pas seulement ça. Comme si je sors aujourd'hui d'Égypte. Tu comprends ça ? Pas seulement te demander de te rappeler d'un événement. Déjà, c'est très dur. Tous les jours, si je me rappelle d'un événement que j'ai jamais vu.
Déjà.
D'accord ? tous les jours tu te remets dans un contexte, et pas seulement ça, tu me dis que c'est, tu dois t'imaginer comme si tu es sorti aujourd'hui d'Égypte. Mais je ne suis pas sorti aujourd'hui d'Égypte. D'accord ? Je ne suis jamais allé en Égypte.
Je ne connais même pas. Et la dernière fois que j'y étais, c'était sympa.
Mais j'y ai été.
Et si j'y étais,
je ne sais pas à quoi ça ressemble, l'Égypte. Donc là, en vérité, on va avoir le secret de la Karatatov. Le secret de la Karatatov, c'est de comprendre qu'en vérité, on sort d'Égypte tous les jours. Et par rapport à cette sortie d'Égypte, on doit être reconnaissant à cette Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi cette sortie d'Égypte? Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. C'est quoi cette sortie d'Égypte qu'on a tous les jours? Vehi. Explique le Gemara Zaken. Peut-être avant de dire ce qu'il dit le Gemara Zaken, le rabbi de Kotsk, il disait, pourquoi la fête de Shavuot, on l'appelle Matan Torah? La fête du don de la Torah. Pourquoi on ne l'appelle pas la fête de Kabbalat à Torah? La fête de la réception de la Torah. Puisque, par exemple, à Pessah, qu'est-ce que tu me dis? Midi Pessah, on est sorti d'Égypte. D'accord? Je sais pas moi, Soukot, tu me dis, ben, on était couvert par des nuits. Ça veut dire que le focus, il est sur qui?
Sur celui qui reçoit.
Sur celui qui reçoit. Et pourquoi dans ce cas-là, Shavuot, on appelle Zman Matan Toratenu? Chag Matan Toratenu. D'accord? On appelle la fête du don de la Torah. Le rabbi de Kotsk a expliqué comme ça.
Le zoom est sur Hachem.
Voilà, le zoom est sur Hachem. Tu dis le don de la Torah, pas qu'on a reçu la Torah. Pourquoi? Et le rabbi de Shavuot. Le rabbi de Kotsk expliquait la chose suivante. Il disait, parce que recevoir la Torah, on doit la recevoir tous les jours. Donc il n'y a pas de fête de recevoir la Torah, ça c'est tous les jours. Par contre, la fête du don de la Torah, là, il faut le célébrer. Page 132. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc aujourd'hui, on parle de la... tu arrives juste au début, on a expliqué jusqu'à présent, maintenant on va faire dans les mots. Page 132. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte aujourd'hui? Comment tu veux que je m'imagine que je suis sorti d'Égypte aujourd'hui? C'est pas possible, je suis pas sorti d'Égypte. Vehi, explique-le-moi. Yetziat nefesh elokit mima asar agouf. Alors le concept va être là, mais après on va devoir le développer. C'est la sortie de l'âme divine mima asar agouf de l'emprisonnement du corps. Mishra de Chivia, dans le terme du Zohar, ça s'appelle la peau du serpent. C'est quoi cette peau du serpent, emprisonnement du corps? D'accord? Alors c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne, même le plus grand tzadik qu'on peut s'imaginer, il est bridé par son corps. Et c'est pour ça qu'on dit que tous les tzadikim, même les plus grands tzadikim, le jour où ils partent de ce monde, ils sont encore plus forts qu'avant parce qu'ils sont plus limités par leur corps. C'est quand ils sont dans un corps, ben, ils doivent dormir, ils doivent manger, ils doivent faire affaire avec le matériel. Ils ont des besoins physiques. Donc, qui dit qu'ils ont besoin physiques, ça veut dire qu'ils sont bridés par leur corps.
À moins que même les chamas, elles soient reparties en mission.
Même si elle est partie en mission.
Non, c'est reparti en mission, elle va être de nouveau bridée dans un corps.
C'est-à-dire?
C'est les chemins du tzadik.
Oui.
Elle repart en
mission. Ah oui, oui, bien sûr.
Elle va de nouveau être bridée dans un corps.
Bien sûr, bien sûr. Alors, si elle n'a pas fini sa mission, ben elle va devoir redescendre dans un corps. Donc ça veut dire qu'une neshama par définition, ne peut être bridée par le corps. Et c'est le Maïmonide, on en a parlé le Shabbat de Shmona Prakim la Rambam, c'est le livre vert qui est là-bas. C'est l'introduction que Maïmonide il a fait au Pirkei Avot. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il donne un exemple. Il dit de la même manière que le non-voyant ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est une couleur. Il ne peut pas s'imaginer. On peut lui expliquer ce que c'est une couleur. D'accord? Mais il ne pourra jamais comprendre. Il pourra comprendre qu'il y a quelque chose qui... Il ne peut pas s'imaginer. C'est quelque chose qui ne peut pas... Ça rentre pas dans sa tête. Tu vas lui expliquer, tu vas dire que voilà, qu'il y a quelque chose qui a une couleur. Vas-y, essaye d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire une couleur. D'accord, on peut expliquer qu'est-ce qui se passe, d'où elle vient la couleur. Il y a un mélange de plusieurs phénomènes, etc. Mais qu'est-ce que c'est une couleur? On ne peut pas expliquer, impossible d'expliquer. Ça ne s'explique pas.
Il y a un sens en moins, donc on ne peut pas. Les odeurs, ce que tu veux, il va comprendre, mais la couleur...
D'ailleurs, c'est comme ça que le Rambam avait... C'est comme ça que Maïmonide s'était défendu, parce qu'il avait une fois une histoire avec les médecins de la cour. Je crois que c'était en Égypte, d'ailleurs. Et eux, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que Maïmonide disait. Maïmonide disait qu'un non-voyant, un non-voyant de naissance, ne peut jamais voir. Ça, il disait qu'un non-voyant de naissance, il ne pourra jamais récupérer la vue. Et là-bas, donc, l'histoire, elle raconte, elle dit que les médecins, ils sont partis voir le sultan, ou je ne sais pas comment on appelait le sultan en Égypte, enfin. Et ils ont dit, on va vous prouver que c'est faux. Donc voilà, donnez-nous rendez-vous tel jour, convoquez Maïmonide, et on va vous prouver que c'est faux. Et donc... Ils ont convoqué Maïmonide, etc. Alors, ils ont fait des potions, etc. Ils ont mis sur les yeux d'une personne, qui disait qu'il ne voyait pas. On lui demandait ce que tu vois, il dit je vois pas. Et à un certain moment, il a dit, ah, je vois. Qu'est-ce qu'il a fait Maïmonide? D'accord? Il a pris, il a sorti tout de suite. Il avait réfléchi. Il a sorti tout de suite un mouchoir de sa poche, un mouchoir rouge, on dit. Il lui a montré, il lui a dit, quelle couleur est ce mouchoir?
Rouge.
Rouge. Bravo. Et ça, il dit, Maïmonide dans Shmuel Aprakim la Rambam. Il dit que, de la même manière qu'un non-voyant ne peut pas savoir ce que c'est de la couleur, de la même manière, il y a certaines choses que la Neshama, lorsqu'elle est dans le corps, elle ne peut pas s'imaginer. Elle ne peut même pas s'imaginer. Elle ne peut pas savoir. C'est pas qu'elle a du mal à comprendre, du mal à percevoir, c'est flou. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça s'appelle l'emprisonnement du corps. L'emprisonnement du corps. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, ça veut dire quitter cet emprisonnement. Alors, on va expliquer, c'est bien beau de le dire, mais il faut comprendre ce que ça veut dire en clair dans ma vie. Ça veut dire quoi, quitter l'emprisonnement de l'Égypte? Quitter l'emprisonnement du corps. Alors, bon, Razaken explique. Il dit, L'Ikalel beyichud orensov baruchu aliede esek atorah v'amitvot. Bichlal. Il dit, si tu veux savoir comment un juif fait pour quitter l'emprisonnement de son corps, vous savez, l'emprisonnement de son corps, c'est un terme qui est très vaste, d'accord? Parce que l'emprisonnement de son corps, ça peut vouloir dire aussi, voilà, qu'on est pris par notre matériel, par notre travail, par la vie de tous les jours, et qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à dépasser ça. Alors, nous dit Mora Zaken, de manière générale, lorsqu'une personne fait une mitzvah ou étudie la Torah, il va se rendre compte que progressivement, il va quitter ses problèmes matériels. On ne dit pas que c'est instantané, d'accord? Mais par exemple, le Shabbat, même dans la semaine, quand on vient à un cours et qu'on essaye de quitter ses problèmes, eh ben la Torah a la force de propulser quelqu'un. Donc, en d'autres termes, de le faire sortir de cet emprisonnement. Ça, c'est en général, en règle générale. Mais on va se focaliser sur un moment particulier de la journée dans lequel ce phénomène est vraiment très voyant. Le phénomène que on quitte l'esclavage du corps et que même, bien que normalement, on devrait être esclave par le corps, par le matériel, on va quitter cet esclavage. Ou Bifra, nous dit l'Admor HaZaken. En détail. Bien qu'en général, le concept de Torah Mitzvot est ça, mais on retrouve ça particulièrement. Bekabalat malchut shamayim bikriat shema. Lorsqu'on reçoit sur soi le joug de la royauté divine, quand on lit le shema. Sheba. Mekabel ou mamshich alad yichudot ba'av beferush. Et comme on l'a expliqué, quand on fait le shema, qu'est-ce qui se passe? On accepte à ce moment-là l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, explicitement. Beomro, en disant, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On a expliqué plusieurs fois que ça veut dire quoi Hachem Elokeinu, qu'Hachem est notre Dieu. La semaine dernière, la deuxième semaine, on a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un Dieu? Rappelez ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que ça veut dire que je dis Hachem est mon Dieu? Est-ce qu'un Dieu peut m'appartenir? Un verre peut m'appartenir, une assiette peut m'appartenir, mais un Dieu peut pas m'appartenir?
C'est s'unir.
D'accord? C'est s'unir. On a dit que quand je dis mon Dieu, ça veut dire que je suis tellement uni avec Akadosh Baruch Hu que c'est mon Dieu. On sait très bien, c'est-à-dire que quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavana? On doit avoir la kavana que Akadosh Baruch Hu emplit les sept cieux et la terre. Donc la valeur numérique de 8. D'accord? Echad, c'est Aleph, Red, Dalet. 1, 8, 4. 1, c'est Akadosh Baruch Hu. 8, ça correspond aux sept cieux, donc, et la terre. Et Dalet, d'accord? C'est les quatre points cardinaux de la terre. D'accord? Les quatre points cardinaux de la terre. Enfin, de la terre, de l'univers. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on lit le schéma en vérité? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on lit le schéma? On est en train de dire que même si j'ai ma petite vie, j'ai mes petites affaires, j'ai mes petites envies, j'ai mes petites, etc. Mais en vérité, le vrai patron, c'est toi, Akadosh Baruch Hu. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu gères tout. Le moment dans lequel on réfléchit, c'est très important de réfléchir au moins à ça pendant le schéma. Parce que si on n'a pas réfléchi à ça, on n'est pas quitté du schéma. Le schéma Israël, le schéma Lokuna, le schéma Echad. D'accord? C'est important. C'est-à-dire, bon, on va dire que Bediavad, on va dire que les gens, quand ils font schéma, ils sont conscients que c'est important et que ça parle de Dieu. Mais bon, c'est vraiment du Bediavad.
Non, ce qu'on apprend, c'est que la chemise n'est plus l'univers, mais c'est que cette notion de cardinaux, quoi. De cardinaux,
ça suffit, que... c'est bon, ça suffit, ça. Ah oui, point cardinaux, c'est-à-dire mais qu'il est partout.
Ça, moi, je pense pas à cette cieux, je pense
à... Bah, d'accord.
Omniprésent.
Comme je me rappelle, quand on était petit, on nous apprenait la chanson Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois. Ouais. Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est... C'est comme ça, c'est-à-dire que depuis qu'on est petit, juste avant de lire le schéma, on nous apprenait cette chanson. Comme ça. Je pense qu'ils font ça longtemps, à peu près toutes les écoles, c'est une chose qui est très connue. Hachem est partout. Quand on dit Shema Israël, c'est la kavana qu'on doit avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait le schéma, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, je vais quitter l'emprisonnement de mon corps. Particulièrement. Mon corps, il me dit en général, il me dit, tu as ta petite vie, tes petites envies, tu as tes petites affaires, c'est ça ce qui compte. À Kadosh Baruch Hu, c'est de l'abstrait. Ça, on ne connaît pas tout ça. Donc on est emprisonné par notre corps. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit le schéma? Quand on lit le schéma, on essaye de moins pour un instant de réfléchir au fait qu'en vérité c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Et c'est écrit que si on a cette cavane là pendant le schéma, c'est comme si on a fait Messirut Nefesh, comme si on a donné sa vie explicitement pour Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Alors ça nous dit l'Admor HaZaken, ça c'est ce qu'on appelle sortir, ça c'est ce qu'on appelle, on va devoir développer ce concept, hein, ce qu'on appelle sortir de l'emprisonnement du corps. Vous avez compris, le concept de sortir de l'emprisonnement du corps, ça veut dire quitter le matériel, au moins pour quelques instants, quitter les limitations, d'accord ? Quitter les limitations matérielles. Et il explique.
Pourquoi la sortie d'Égypte, ça représente ça ?
En fait, quitter ton Égypte.
Expliquez après. Même question. Parce que, bon, je peux te dire en gros déjà, c'est que Mitzrayim, en hébreu, c'est la même racine que Metzarim. Metzarim, en hébreu, ça veut dire les barrières, les limites. Donc, on parle bien des limites. Et sortir de Mitzrayim, ça veut dire sortir de ses limites.
Se dépasser.
Ça veut dire sortir du bridage, enfin, je sais pas comment on dit, le bridage, sortir du bridage qu'on a. On a dit que par nature, un homme, quand il est né, il est bridé par son corps. Et par nature, c'est comme il métro, boulot, dodo. Il est bridé, c'est comme ça qu'il est programmé. On est programmé comme ça. Et quand à un certain moment, j'essaye de penser à autre chose et de dire qu'il y a quelque chose de plus important que tout ça, ben quelque part, pour réussir à le faire et à le penser sincèrement au moins quelques secondes, il faut quitter l'emprisonnement du corps. Il faut quitter les limites du corps. Tu comprends ?
L'homme, il est plutôt bridé par la confiance qu'il a en chef, non ? Qui se trouve érodé par le temps. Souvent l'homme, il perd confiance à Hachem parce qu'il voit lui, Dieu préserve qu'il perd sa femme, l'autre qui perd son... Il y a des événements qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est ça qui le bride dans son amour à Hachem.
C'est encore autre chose. C'est pour ça que j'ai amené l'exemple que Maïmonide a dit, l'exemple avec le non-voyant. Ça veut dire qu'on ne parle pas de quelqu'un ici qui a vu des choses, qui est passé par la Shoah, par exemple, et que du coup, il ne veut plus croire. Ça, c'est autre chose encore. Ça aussi, tu as raison, ça aussi, c'est un bridage. Mais là, je parle d'un bridage naturel. Je parle que naturellement, quand on est dans un corps, d'accord, naturellement, on est plus intéressé par le spirituel que par le matériel. C'est ce qu'on avait expliqué à la fin du chapitre précédent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la différence entre Da'at Terton et Da'at Elyon.
Comment qu'on est dans un corps, on est...
Oui. Quand on est
C'est l'inverse, je pense. C'est plus c'est spirituel c'est que matériel.
Ah oui.
Non, on aurait aimé, mais...
Plus matériel que...
Alvaï,
amen. Plus matériel que... On avait dit la différence entre Da'at Terton...
C'est pas naturel, c'est-à-dire que t'es obligé de travailler pour un spirituel.
On avait expliqué il y a deux semaines, à la fin, on avait fini sur ce point, la différence qu'il y a entre Da'at Terton et Da'at Elyon. Da'at Terton et Da'at Elyon, on avait expliqué la différence. On avait dit que c'est la différence qu'il y a entre la manière de voir les choses en haut et en bas. Quelle est la différence ? Elle dit que la manière comme on voit les choses en bas, c'est que le matériel, c'est du concret. C'est du concret. Et le spirituel, c'est de l'abstrait. C'est du futur, c'est bon, mais on ne connaît pas.
C'est l'inverse.
D'accord. Quand on est chez Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Quand on est chez Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. C'est le spirituel là-bas, c'est...
C'est concret.
C'est concret. Et le matériel, ils savent qu'en bas, il y a des gens qui ont du matériel.
Ou un vieux souvenir.
Vous savez, on a l'habitude... Pour une petite anecdote que j'ai quand je suis parti à New York. On a l'habitude quand on va au...
Donc il n'y a pas beaucoup de là-haut.
Oui, il n'y a que ça.
En haut, ils doivent dire, en bas, ils ont quelque chose qui s'appelle Adam Prout et il paraît que c'est bon. Vous savez, quand je suis parti à New York, il y en a qui ont l'habitude de pas manger avant d'aller au cimetière, avant d'aller donc au Hall du Rabbi. Donc nous, on avait pris l'avion. Et bon, j'avais très faim dans l'avion, on a fait l'avion à 11h, on allait arriver à l'équivalent d'environ de 7h du soir ici, quoi, 19h. Donc bon, dans l'avion, j'avais faim, j'ai mangé. Et ensuite, je posais la question à un Rav qui était dans l'avion. Je lui posais la question, je lui ai dit, est-ce qu'on peut aller au OL ? Sinon, je serais parti le lendemain, quoi. Est-ce qu'on peut aller au OL si on a mangé ? Alors là, il m'a répondu, il m'a dit, pourquoi tu poses pas la question de l'autre côté ? Est-ce que si on doit aller au OL, on peut manger ? T'as compris la différence d'Alterton, d'Atelion ? En plaisantant, il m'a dit ça, mais... J'ai compris ma leçon. Ah, c'était pour dire que c'est une erreur, hein, que j'ai dit là. Donc, comment je suis né où j'étais ?
Ton but, si il était d'aller au OL.
C'est pas vrai, t'as pas mangé.
Mais si !
Non, il a fait pour se dégrader à nos yeux, mais c'est pas vrai, il a pas mangé. Il a jeûné.
Non.
Non, j'ai mangé, je suis parti le lendemain. Je suis parti au OL, quand je suis parti au OL, je portais Teilim à côté, mais je suis pas rentré. Et le lendemain, je suis reparti.
Moi, je prévenir dans ma femme.
En général, je jeûne. Non, bon, elle
est pas. Donc, il faut jeûner.
Il y a plein de gens qui jeûnent pas. Moi, en général, j'essaie de jeûner parce que bon, c'est mieux. Bon, des fois, quand t'es fatigué et tu arrives, surtout, voilà, tu prends un vol à 11h du matin, tu vas arriver là-bas et c'est l'équivalent de 7h, 19h. Le temps que tu vas aller au L, tu vas sortir et tout, ce sera l'équivalent de 10h du soir en France. Bon, on a faim, quoi. Bon. Ceci dit, tout est psychologique. Hein. Kmoshe, alors où on est dans les mots? Kmoshe Nidber Leel, qui est loqué nous, ou Kmo est loqué Abraham. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait expliqué dans le chapitre précédent. En vérité, ce chapitre, c'est un chapitre complémentaire au chapitre précédent. On avait expliqué que quand on dit que Dieu est notre Dieu, c'est comme si on. C'est la même manière que quand on dit au début de la Mida que Dieu est le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. Est-ce que c'est le même Dieu pour tout le monde? Les fichaïa batel benichlal beichud avansav baruchu. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham? Puisque Abraham était tellement annulé à Kadosh Baruchu que la shrina qui passait par la shrina qui. Quand on voyait Abraham, on voyait Dieu. Donc du coup on l'appelait le Dieu d'Abraham. Pareil pour le Dieu d'Yitzhak, pareil pour le Dieu d'Yaakov. Rak, je lis un petit peu quelques lignes, après je vais expliquer. Shavraham zachalaze bemaasav. Abraham, il a mérité à ça par ses actions. Veiluchu bakodesh mi madriga le madriga. Kemo shekatuv, comme c'est écrit. Vaïsa Abraham alors venasoa. On nous a raconté, je crois que c'est dans la paracha il y a deux semaines, on nous a raconté que Abraham a voyagé alors venasoa. D'accord? Dans le terme, il dit comme ça. Enfin, je sais pas comment on peut traduire ça en français. Abraham a voyagé en marchant et voyageant. Alors ça veut dire qu'il voyageait, c'est tout, c'est un voyageur. Mais bon, c'est quand même un peu spécial le langage. Il a voyagé Abraham en marchant et voyageant. Bah, s'il a voyagé, c'est qu'il a marché, il a voyagé. Enfin bon, il sort. Et le Zohar s'arrête dessus. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit qu'en vérité, quand on parle des voyages d'Abraham, il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement les voyages matériels, mais aussi les voyages spirituels. Et quand on lui dit qu'Abraham a voyagé, quand on lui dit qu'Abraham a avancé, d'accord, ça veut dire que Abraham est en train de constamment travailler sa mida de chesed. Il est en train constamment de s'annuler encore plus la Kadosh Baruch Hu. Mais quand on dit que Eloke Abraham, le Dieu d'Abraham, ça veut dire que Abraham tellement il s'annulait à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'était plus qu'une manifestation de la mida de chesed d'Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez? Ça veut dire que quand Dieu voulait manifester le chesed dans le monde, il passait par Abraham. À tel point que le Midrash raconte, il dit que quand Abraham il était dans le monde, la mida de chesed elle est venue se plaindre chez Kadosh Baruch Hu, elle a dit j'ai pas de travail. C'est une grâce, je raconte. Bien sûr, c'est une image. Elle a dit, j'ai pas de travail. Ça veut dire, bon, mon métier, j'ai plus de métier parce qu'Abraham fait mon boulot à ma place. Ça, c'est quand on dit Eloqué Abraham. Le Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi le Dieu d'Abraham? C'est-à-dire qu'Abraham s'est annulé entièrement à Kadosh Baruch Hu. Aval anachnu, Yerusha matana ilanu shenatamenu et torato. Abraham a travaillé pour ça. Abraham a travaillé toute sa vie. Comme on a dit, les voyages d'Abraham, c'est quoi les voyages d'Abraham? C'est ça, c'est ce travail-là, pour arriver encore plus, encore plus, encore plus, être uniquement une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Être un outil dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on va arriver au même résultat en faisant une mitzvah, en faisant le schéma, par exemple. Voilà, je fais le schéma par exemple, je vais faire le schéma, et quand je vais faire le schéma, je dis « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », je vais avoir la kavana à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu gère ma vie. Bon, je peux y penser, mais je veux dire, mais attends, je peux y réfléchir avec mon cerveau, mais en vérité, je le sens pas. C'est pas grave, réfléchis, tu es dedans, c'est bon. Alors si, c'est juste Abraham Avin, ou effectivement. Tu aurais dit, attends, c'est pas en réfléchissant quelques secondes qu'il va tout arranger, il faut travailler. Mais comme, effectivement. Mais nous, maintenant qu'on est les enfants d'Abraham Avin, nous, on a hérité ça d'Abraham Avin. Shenatan lanu et torato veil bishbar et sono itbarech. Akadosh Baruch Hu a habillé sa volonté, dans la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme habillé? Là, je vais expliquer ce qu'il veut dire. Le terme habillé, c'est comme le concept d'un vêtement. D'accord? Le concept d'un vêtement, c'est quand on prend quelque chose qui n'est pas compréhensible, et on va l'habiller pour que ce soit plus compréhensible. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui est tout nue, ne peut pas sortir de chez lui. Pourquoi il ne peut pas sortir de chez lui? Parce que tel qu'il est, il n'est pas adapté à sortir dehors. Ça ne se fait pas. Quand il va s'habiller, d'accord? Quand il va s'habiller, le vêtement, en général, va correspondre à l'image qu'il a envie de donner. Donc il va se donner une image cool, une image classe, ou ce qu'il veut. Donc le vêtement va correspondre à l'image qu'il a envie de donner. Donc le vêtement, c'est pour ça qu'on appelle un levouche, un vêtement. Ça veut dire que le vêtement va faire que couvrir la personne, mais il va aussi exprimer certaines choses. Je vais vous donner un autre exemple aussi de ce que c'est un vêtement. D'accord ? Il y a des ?
Il habille les formes.
Il habille les formes. Je vais donner un exemple aussi de ce que c'est un vêtement. On dit que quand par exemple, on veut faire passer une idée, on veut expliquer une idée à quelqu'un, on n'arrive pas à lui expliquer. On va lui donner un machal, une parabole. Qu'est-ce que c'est ? On va analyser ensemble qu'est-ce que c'est une parabole. Voilà, par exemple, un exemple qu'on amène souvent en chassidout, on dit par exemple, c'est un exemple qui comprenait à l'époque, on dit par exemple, on a envie d'expliquer à quelqu'un comment la divinité c'est bon, et on va lui dire, compare ça à la douceur d'une pomme. Bon, c'est un exemple qui est amené dans le livre de Kabbalah. Peut-être je redonne un autre exemple, moi. D'accord ? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire donner un exemple ? Comment on fait quand on a un exemple ? Qu'est-ce qu'on fait ?
On illustre.
D'accord ? Ça veut dire quoi illustrer ?
C'est rendre compréhensible.
Mettre une image. Encore une fois, mais qu'est-ce qui mettre une image ? Est-ce que je peux mettre n'importe quelle image ?
Non. Enfin, permet de comprendre.
D'accord, mais ça permet de comprendre. C'est quoi la définition d'une parabole ? On va définir ensemble. Qu'est-ce que c'est une parabole ?
On va utiliser les concepts qu'on utilise tous les jours. Ça fait des choses des concepts qui sont au-delà de notre...
D'accord. C'est adapté donc, à travers...
C'est un autre moyen.
Oui, d'accord. Non, mais la définition d'une parabole, c'est quoi ? C'est que j'ai envie d'expliquer un concept qui n'est pas compréhensible.
Mm-hmm. Et je prends...
Voilà, par exemple, nous on veut expliquer ici... Voilà, nous ici on veut expliquer le fait qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Donc on a donné l'exemple d'un roi, d'accord, qui va prendre quelqu'un de défavorisé. Ça s'appelle un exemple.
Donc,
quelle est la définition d'une parabole ? Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On cherchait à expliquer quelque chose, mais on voyait que si on l'expliquait tel quel, il ne serait pas vraiment compréhensible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ?
On a ramené
donc ce concept à un champ qui est plus compréhensible, mais qui a la même définition.
Oui. Ça veut dire que ce sera exactement... C'est mis au niveau de...
Mais ça veut dire que ce sera exactement le même concept. Le concept sera le même, sauf qu'il a été peut-être matérialisé, ou on l'a rapproché de la personne. D'accord ? Enfin, je vais expliquer à un enfant avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher le concept de sa logique. Ça s'appelle un vêtement. Ça s'appelle aussi un vêtement. C'est quoi le vêtement ? Le vêtement, c'est quand je prends quelque chose qui n'est pas exploitable tel quel, je vais lui mettre un vêtement, d'accord ? Je lui dis, voilà, tu as compris le vêtement. Si tu as compris le vêtement, tu as compris ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le machin. Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, on est les défavorisés, nous. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner sa chorma, il veut nous donner sa volonté, il veut tout nous donner. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas nous la donner telle qu'elle. En brut, comme ça, on va même pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a habillés. Dans quoi il les a habillés ? Dans la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est la parabole. C'est pour ça que dans le Zohar, il appelle la Torah, il appelle Machal Akadmoni. Il appelle le Machal, donc la parabole, Akadmoni, celui qui était là déjà depuis, qui a été créé depuis avant le monde. Parce que c'est une parabole. C'est une parabole. Va arrêter que ilou natan la nous atatmo kaviachol que moi je kitu bezor akadosh veik al pasuk veikru li truma de li que l'omar oti va veler le mar ou truma et la mishum de kulacha de incham etel. Qu'est-ce qu'il dit là de Mourazaken? Encore une fois, rappelez-vous, je vais pas faire le focus parce que là c'est un petit peu égaré. Il a parlé de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte spirituellement? Comment la sortie d'Égypte ça peut me concerner tous les jours? Moi j'ai jamais été en Égypte. Il a expliqué que la sortie d'Égypte spirituellement c'est quoi? C'est le concept de la sortie d'Égypte, c'est quand notre âme divine va quitter l'emprisonnement du corps. Toute la journée, elle est emprisonnée par le corps, elle est emprisonnée par métro, boulot, dodo. C'est tout ce que c'est. Imaginez, vous êtes Nefesh Elokim qui était chaque Kadosh Baruch Hu en train de réfléchir, en train d'étudier la Torah, tout ce que vous voulez. Maintenant, elle est bridée dans un corps. Et elle ne peut rien faire. Elle n'a pas son mot à dire. Ça s'appelle emprisonnée. C'est quoi, on a employé le terme emprisonné. C'est quoi la définition d'une personne qui est en prison ? C'est qu'il n'a plus le libre arbitre de faire ce qu'il veut. C'est les geôliers qui vont décider. C'est eux qui vont décider quand tu sors et quand tu sors pas. Quand tu sors, quand tu vas prendre de l'air. Donc de la même manière, l'âme divine, elle est emprisonnée.
Donc on étudie, on est limité par nos capacités mentales.
Ah voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie ? Ce qui se passe quand on étudie, c'est qu'on va faire sortir la Neshama. C'est comme le geôlier qui va faire sortir pour prendre de l'air. Bonne question. C'est pour ça qu'il a amené l'idée de l'évouche, du vêtement. Pour te dire que même si... Je dis pas qu'on va attraper. Je dis pas que quand on va dire la Torah, on va sentir qu'on attrape du Dieu en bloc. Bien qu'on le fait. Parce que c'est un exemple. Mais dans l'exemple, c'est la parabole, c'est le même concept que la chose qu'on veut expliquer. Le machal et le nimshal.
Et ce, quel que soit le niveau intellectuel...
Ah, peu importe.
Un idiot.
Toujours la même chose. Toujours.
Autant libérer l'un que l'autre.
Oui. Parce que quoi qu'il en soit, ce sera toujours un vêtement. On n'aura jamais l'essence. Alors après, bien sûr, le vêtement, tu auras une personne qui va mieux élaborer le vêtement, mais ça restera toujours un vêtement. C'est un vêtement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me permet de comprendre ce qu'il y a en vérité derrière. C'est ce que Dieu a fait dans la Torah et les mitzvot. Quand à Kadosh Baruch Hu donné les mitzvot, dans chaque mitzvah, il y a une partie de sa volonté qui est habillée. C'est pour ça que des fois, nous, on fait les mitzvot.
C'est déjà un mitzvah, il faut qu'elle soit compréhensible. Déjà la mitzvah elle-même, que tu dis que c'est pour se mettre un peu
oui.
à notre niveau. Déjà, même voilà. Ça, c'est pas compréhensible.
On va prendre un exemple. Par exemple, tu me donnes la mitzvah de Mezouza. Ah, Mezouza, c'est une mitzvah. D'accord. On va poser une question exactement, on va dire pourquoi tu mets la Mezouza à ta porte. D'accord. Ah, bien sûr qu'on peut trouver des réponses qui sont à notre niveau.
Cartésienne.
On va dire c'est pour nous protéger, etc. Alors. Parce que c'est vrai, c'est pas faux que Mezouza se protège. Mais c'est pas la vraie raison pour laquelle on met Mezouza. La vraie raison pour laquelle on met Mezouza, parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, je veux vous donner ma volonté, je veux vous donner mon essence. Et comment je veux vous donner mon essence? Par le vêtement, par la parabole qui sont les mitzvot. Donc en faisant la mitzvah, vous suivez le même plan qu'il y a en haut, c'est le même concept. Maintenant, si vous voulez prendre ce concept en bas, vous voulez l'habiller et expliquer des choses en bas, pourquoi pas, faites-le, si ça va vous encourager à faire les mitzvot. Pourquoi pas? Mais la vraie raison pour laquelle on fait la mitzvah, c'est parce que ça correspond à ce qui se passe en haut, c'est tout. Et donc on pourra jamais comprendre la vraie raison pour laquelle on fait une mitzvah. Ça, c'est un concept qu'on a répété plusieurs fois dans Tania. Que toutes les raisons qu'on donne, il y a des raisons sur les mitzvot. Mais c'est des raisons qui sont là uniquement pour nous faciliter la tâche. Intellectuelle. C'est des vêtements. C'est des vêtements. Peut-être que spirituellement, la mitzvot, ça doit correspondre à une protection divine, je sais pas, un truc de protection, je sais pas, je connais pas. Mais l'essence de la mitzvot, on la comprendra jamais.
C'est parce qu'on fait la volonté d'Hachem que la mitzvot nous protège.
D'accord. Donc certainement que la mitzvot spirituellement, ça doit correspondre à quelque chose qui a un rapport avec la protection. Peut-être, je sais pas. Spirituellement, ça correspond à quelque chose, mais on le saura jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que la mitzvah, telle qu'elle est habillée en bas, si par exemple on nous dit que la mezouza, c'est pour protéger, les téfilines, c'est pour amener le joug divin, d'accord? C'est pour, les téfilines, pour soumettre le cœur et soumettre la tête, d'accord? Ça, c'est la mitzvah telle qu'elle est comprise en bas, telle qu'elle est habillée en bas. Donc ça correspond à ce concept-là en haut aussi. Il y a un concept qui correspond à ça aussi. Ça veut dire, protéger ou bien s'annuler. Spirituellement, ça correspond à un concept que nous, on comprendra pas. On comprend pas de ce concept. On comprendra jamais l'essence du concept. Mais c'est le concept même du lévouche, du vêtement.
Donc on l'a mis à notre niveau. Donc on essaye déjà de...
Ouais. Comme le vêtement. Le vêtement, il est fait à la taille d'une personne. Quand je vois le vêtement sur une personne, je vais m'imaginer quelle taille il fait. Bien que je ne vois pas son corps. C'est le concept du vêtement. C'est un concept qui est très profond, le concept du vêtement. C'est un concept qui revient très très souvent dans le Zohar. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on a, nous, la seule chose que je peux nous donner, c'est des vêtements. C'est des vêtements, ça veut dire, c'est une manière de comprendre ce qui se passe derrière. On n'a jamais l'essence. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Il a dit, Veraïta et Achorai, Ufanaï lo Yeraou. Il a dit, tu verras derrière, mais tu verras jamais ma face. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, tu pourras jamais comprendre ce qui se passe vraiment. Tu pourras comprendre. Comme tu vas voir ici un nœud de tefilin. Le Midrash dit qu'il a vu le nœud des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. C'est une image. Toi, tu vas voir le nœud des tefilines. Tu vas comprendre qu'ici, il y a des tefilines devant. Mais c'est une image. Pour dire que tout ce qu'on a nous, c'est seulement des lévouches, un vêtement. C'est-à-dire qu'on voit une situation, et par rapport à ça, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière. C'est un vêtement. Alors, pourquoi il amène ça ici? Pour expliquer que, encore une fois, qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte spirituellement? C'est quoi la sortie d'Égypte spirituellement? Spirituellement, la sortie d'Égypte, ça veut dire c'est quand la Neshama va quitter l'emprisonnement du corps. De manière générale, ce concept est valable quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot. Comme la Gemara a dit, En lecha ben chorin ela mishosek batorah. Que une vraie si tu veux atteindre la vraie liberté, il faut étudier la Torah. C'est ce qui amène la vraie liberté d'esprit. Qu'on n'est plus bridé, on n'est plus limité par le corps. Donc, de manière générale, Torah et mitzvot est égal à débridage, est égal à sortir de prison. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Tu veux savoir c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est quand tu étudies la Torah, tu fais la mitzvot. Quand tu sens que ça te propulse, c'est que tu es dans un autre monde. Tu crois que c'est une illusion, c'est pas une illusion. Tu es à ce moment-là, tu es en train d'être sortir de prison. Plus particulièrement, ça correspond à quelle mitzvah? À la mitzvah du Shema Israël. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit le Shema Israël? Shema Israël, on dit, je reçois sur moi le joug de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réalise que toutes mes petites envies que j'ai, en vérité, ça vaut rien par rapport à ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. Qu'en vérité, le vrai patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle réaliser que, bien que je suis emprisonné, Et qu'en prison, ben, j'ai appris de nouvelles notions, je sais qu'en prison, il faut faire plaisir à un tel, faire plaisir à un tel, si je veux avoir un peu plus de pain, un peu plus de... On est en prison. À un certain moment, le prisonnier, il a un instant de vérité, dans lequel il voit que tout ça c'est du pipeau, qu'en vérité, il y a Kadosh Baruch Hu, et c'est lui en vérité qui gère tout. C'est la même chose qu'on devrait avoir quand on est au Shema. Quand on passe par le Shema, Shema Yisrael, Shema Kadosh Baruch Hu, on va avoir le sentiment que même si dans les faits aujourd'hui on vit en prison, et que bon, on a appris que pour, quand on vit en prison, donc il faut plaire à tout le monde, il faut essayer de plaire à celui qui va t'amener à manger, à celui qui va t'amener à boire, à celui qui va te faire sortir, etc. Mais à un certain moment, il y a un instant de vérité, dans lequel je dis qu'en vérité, tout ça, c'est pas ça ce qui me gère. En vérité, il y a Kadosh Baruch Hu, en vérité, je suis pas en prison. C'est Kadosh Baruch Hu qui gère tout ça. Ça, c'est, donc c'est en général dans la Torah et Mitzvot, et plus particulièrement, on a dit, pendant la mitzvah du Shema Israël. Et ça, c'est quelque chose qu'on a hérité d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, pour arriver à ce résultat, il a travaillé, il a voyagé, comme on a dit. Nous, on n'a pas besoin de voyager. Nous, il suffit d'essayer d'y réfléchir sincèrement, et ça va accrocher. Et comme on l'a dit il y a deux semaines, on a dit, même si on va croire que c'est une illusion, c'est pas une illusion. C'est un vrai sentiment, parce que c'est quelque chose qui est...
C'est pas de l'auto-persuasion.
C'est pas de l'auto-persuasion, ouais. Parce que quand il y a l'illusion, il y a la désillusion qui vient après. C'est vrai, c'est du vrai. Comme il dit, alors à la fin il a ramené un pasouk qui dit, comme le pasouk qui dit, Veikhouli Trouma. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit le verset ? C'est dans la paracha Trouma. À Kadosh Baruch Hu, il nous demande de prendre la terouma. D'accord ? De prélever de la terouma. Donc c'était pour le Beth Amigdash, pour les socles, etc. Enfin, trois terouma, comme Rashi explique là-bas. Le Zohar dit la chose suivante. D'accord ? Le Zohar dit, pourquoi ? Pourquoi le Zohar dit, qu'est-ce que ça veut dire quand Akadash Baruch Hu dit Veikru li Trouma? Ils prendront pour moi de la terouma. Pourquoi il dit pas tout simplement, ils prendront de la terouma? C'est-à-dire quoi prendre pour moi? Et d'ailleurs, le Zohar a une explication complètement révolutionnaire. Il dit que quand on dit Veikru li, faut pas comprendre qu'on va prendre la terouma pour Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Veikru li, que lorsqu'on va faire la mitzvah, comme il dit ici, aussi, on va prendre Akadash Baruch Hu. Oui. Veikrouli. D'accord. Vous me prendrez. C'est exactement le même concept de la terouma. Veikrouli. C'est le concept de la mitzvah. Comme ça, il explique le Zohar. D'accord. Donc c'est exactement le concept qu'on vient d'expliquer. Que qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en train de faire une mitzvah, hein, bien, encore une fois, le concept du machal. Bien que je ne sens pas ce qui se passe, mais dans les faits, je suis en train de prendre un Kadosh Baruch Hu. Ah, il est couvert avec un vêtement, il est couvert avec 1000 vêtements, et j'ai quand même pris Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre 4, il avait donné un exemple, il avait dit que quand une personne va enlacer le roi, est-ce qu'il y a une différence s'il va enlacer le roi quand le roi a un vêtement ou 100 vêtements? Même si le roi a 100 vêtements, il enlace toujours le même roi. C'est le roi, il enlace toujours le roi, donc de la même manière. Même si nous, lorsqu'on étudie la Torah et Mitzvot, il y a eu des couches sur des couches sur des couches. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, dans les faits, quand on étudie la Torah et Mitzvot, on étudie des choses matérielles. Et qu'à la limite, ça aurait pu être inventé par un homme. D'accord ? C'est des couches, tout ça.
Comment ? Ça, c'est Adama ?
Je ne sais même pas ce que c'est quoi ça.
C'est du maïs.
C'est du maïs, ça ?
Non.
Ah, il a perdu sa forme, là.
Le maïs, tu ne manges pas cru.
Génétiquement modifié.
Tu ne manges pas cru, mais si, tu peux le manger, comment on appelle ça, grillé, là ? Comment ils le font, là ?
Donc, tu le manges cuisiné, le maïs.
Oui, mais quand tu manges cuisiné, il perd pas sa forme, là, il a plus de forme, là. C'est quoi le popcorn?
Je me posais la question, qu'est-ce que c'est?
C'est quoi le popcorn? Qu'est-ce que tu fais sur le
popcorn?
Chacol? J'aurais
dit chacol.
Bah, c'est quoi ça, alors?
Pareil.
On voit que c'est du maïs, quand même, non?
Je sais pas. Non, moi, je vois pas. La question, qu'est-ce que c'est?
Tu vois que c'est du maïs?
Pressé,
si pour toi que tu vois que c'est du maïs, dans ce cas-là, tu fais la bracha que tu as fait sur le maïs.
Ah mais tu vois.
Je sais pas, moi je savais même pas ce que c'était. Une fois j'ai écouté, c'est très sérieux, ça m'intéresse pas.
c'est toujours.
Donc, ça veut dire que quand on fait une mitzvah, de manière générale quand on fait une mitzvah, surtout quand on fait la mitzvah dont on a dit du Shema Israël, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On prend Akadosh Baruch Hu par son vêtement. On sort de l'emprisonnement. Donc voilà, on voit ici un peu où il va venir le Morazaken, quand il veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, c'est quand on arrive à quitter le train de vie de notre vie, D'accord ? Donc le train de vie, du travail, etc., de la parnassa, tout ce qu'on doit faire. D'accord ? Et à un certain moment, essayer de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça, qui dépasse tout ça. Il expliquera après que c'est aussi le concept du Shabbat. Quand le Shabbat, on essaye de quitter la vie, ben quelque part, c'est ce concept-là. C'est le concept de sortir de l'emprisonnement. Sortir de l'emprisonnement. Et ça s'appelle sortir d'Égypte. Et rappelez-vous que ce qu'il y a du début du chapitre, que chaque jour, on doit s'imaginer comme si on était sorti aujourd'hui, Ayom, d'Égypte. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chaque jour, on doit faire un effort pour se rappeler constamment qu'en vérité, l'emprisonnement dans lequel on se trouve, c'est faux. Et qu'en vérité, la vraie valeur, c'est Kadosh Baruch Hu. Normalement, on devrait le faire chaque fois qu'on fait une mitzvah. Ah, tu manges du style, tu vas prendre la damprot là, tu vas réfléchir comment en vérité c'est Dieu qui a donné la damprot et ce qui compte c'est Kadosh Baruch Hu. Normalement, on devrait le faire à chaque instant de la journée. Bon, Razaken il dit, surtout moi au moment du schéma. Au moment du schéma, au moins avoir un instant de vérité. Un instant de vérité dans la journée dans lequel tu sais que le vrai patron c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Et qu'en vérité ici on est en prison et que tout ce qu'on croit on donne de l'importance à l'argent, au kavod, tout ce que vous voulez. Ça c'est rien tout ça par rapport aux vraies valeurs. Si un instant dans la journée on a ça, ça s'appelle qu'on est sorti d'Égypte aujourd'hui. Ze ou shekat ou ze ou shenema batiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava. Avec ça, on va comprendre aussi ce qu'on dit dans la tefila de Shalosh Regalim. Donc, à Rosh Hashanah aussi, on dit batiten lanu dans le kiddush, on le dit aussi batiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on remercie Hakadosh Baruch Hu qui nous a donné, d'accord, le Shabbat ou la fête, etc. D'accord, par amour. Ou bien, encore une autre mention qu'on dit trois fois par jour. Kiveor panera natata lanu Hashem Elokeinu. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné Torah Traim Vavat Resed. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il s'est donné à soi-même. Parce que rappelez-vous ce que j'ai expliqué. La Torah, c'est qu'un vêtement, c'est que le vêtement, enfin, je sais pas, la parabole peut-être de ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que nous, on croit qu'il y a Dieu et il y a la Torah. Dieu, il nous a donné la Torah. Mais en vérité, maintenant, on a compris que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Que la Torah, c'est que le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Et que quand on comprend la Torah, en vérité, Oti Atem Lokrim, comme on a dit, c'est, on attrape Akadosh Baruch Hu. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand on dit Akadosh Baruch Hu, va titan la nous Hashem Elokeinu be'ahava. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il s'est donné à nous-mêmes. C'est ça ce que ça veut dire. Tu veux? Velachen, en monea lanu mitve kuta nefesh beyichudo veoroid barer, ela aratzon. Sheim en adam rotse klal chazve shalom le dov kabochule. Ça veut dire que maintenant qu'on a compris la chose suivante, cette histoire de sortie d'Égypte. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité, rappelez-vous, je répète encore une fois, c'est un point qui est important à comprendre. On dit que quand par exemple on dit, dans le Sim Shalom, on dit Kiveor Panecha, alors on le chante, Kiveor Panecha Natata Lanu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, par la lumière de son visage, d'accord, ça veut dire que par sa gentillesse, il nous a donné Torah Traï, il nous a donné la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? Ou bien quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la fête. C'est quoi ce terme de donner la fête? On a expliqué que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Quel cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Il a dit, normalement, moi, Dieu, je suis inaccessible. Inaccessible. Vous ne pouvez pas m'accéder, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme cadeau? Il nous a donné la parabole. Il nous a dit, avec cette parabole, si vous allez suivre la parabole, bien que pour vous, vous allez croire, oui, bon, on a juste compris un truc matériel. Bon, le mezouza, c'est en cuir. Tefilin, c'est du cuir. On a compris une parabole. Qu'est-ce qu'il a avec Kadosh Baruch Hu? C'est pas grave. Si vous avez compris la parabole, ça suffit. Parce que, en attrapant le vêtement, même si le roi, il a 1000 vêtements, tu as attrapé le roi. C'est ça le sens de Natata Lanu Hashem Elokeinu que Dieu nous a donné. Ça veut dire que dorénavant, Akadosh Baruch Hu nous dit, il n'y a plus d'excuses. Chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, là je vais expliquer ce que ça veut dire. Chez Avraham Avinu. Ce résultat de dire que, d'essayer de monter, de voir Akadosh Baruch Hu, il est arrivé par soi-même. Dieu ne lui a rien donné, il ne lui a pas donné d'outils. Donc c'est lui-même qui était essayé c'est lui-même qui devait à chaque fois essayer de réfléchir, et voir comment en vérité, le Dieu qui s'imaginait, il est encore plus haut, et encore plus haut. Il a fait tout ça dans son imagination, parce que lui, on ne lui a pas donné de parabole. On ne lui a pas donné de parabole à attraper. Nous, on a reçu un cadeau. La tata à la nuit, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Quel cadeau nous a donné Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, moi je vous donne un cadeau, une parabole. C'est quoi la parabole? vous allez faire une bracha sur un, vous allez faire une bracha, vous allez mettre les téfilines. Pour vous, vous croyez que c'est du cuir, peut-être que vous n'allez pas comprendre le concept qui se passe derrière. Vous n'allez pas être comme Abraham Avinu qui va être capable de vous expliquer chaque étape de ce qui se passe. Et qui est encore en train de chercher ce qui se passe. Il monte, ça n'arrête jamais. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Mais bien si vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez quand même m'attraper. Comme Abraham Avinu. La même chose. Parce que je vous ai donné le parabole, je vous ai donné le vêtement. C'est comme si j'enlace ce roi, mais je ne sais pas qu'il y a un roi derrière. Vous comprenez, Abraham Avinu, il a fait vêtement par vêtement, il a dénudé, il a vu le roi. Nous, on n'a pas vu le roi, on ne verra pas le roi. Mais on te dit, on te donne la chance d'attraper le roi. Ah, je ne vois pas, c'est pas grave, il est là. Ça, c'est le terme de notre tata, des cadeaux que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Comme il dit ici, Vélazé, où j'en suis? Vélazé. Alors voilà, je vais reprendre à Vélazé, En Monéa, la ligne qui commence En Monéa. C'est la septième ligne, vous avez là. En Monéa. Melanu mitve kuta nefesh beyichudo veroit varer et la ratson. La seule chose qui va nous empêcher, la seule chose qui pourrait nous bloquer, c'est-à-dire que dans Abraham Avinu, il avait un blocage, il a dû créer la chose, il a dû innover. Mais depuis qu'Abraham Avinu nous a donné ce cadeau, la seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est notre volonté. C'est-à-dire que si on a la volonté, on peut le faire. Il suffit d'avoir la volonté. Mettre les tefillines, c'est difficile. C'est pas difficile, c'est facile. Seulement la seule chose qu'il faut, c'est la volonté. La volonté et la conviction que quand je mets les tefillines, en vérité, ça correspond à quelque chose de spirituel qui est plus fort que je ne comprends pas. Mais si j'ai la volonté, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Si la personne, Dieu préserve, ne veut pas s'attacher à Dieu, parce qu'elle n'a rien pour rien y faire. Celui qu'on lui dit, voilà, le roi est devant toi, viens l'enlacer. Et non, j'ai pas envie d'écouter. Quoi rien faire. Tu veux pas. C'est pas le roi qui va t'enlacer. Le roi, il te dit, voilà, moi je suis descendu vers toi, je t'ai donné une parabole, j'ai simplifié la chose. Maintenant, il suffit juste que tu ouvres les yeux et que tu comprennes ce que je te dis. D'accord, c'est comme quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, il comprend pas. On va descendre, on va lui donner des exemples, on va dire, regarde, un tel a fait comme ça, des exemples pour qu'il comprenne un peu mieux. Et il ne veut pas ouvrir les yeux. Tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu ne comprendras pas. D'accord ? Avalmiya Chirote. Mais dès que la personne veut, ou Mekabel, ou Mamshir, Alav et le Koto Idbarer, et qu'il décide, il dit, écoute, on va essayer d'amener la divinité sur soi, en d'autres termes, Vomer, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il dit, bon, je vais essayer de réfléchir en quelques secondes à qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est lui qui gère tout. Et que moi, je crois que je gère, mais en vérité, dans les mitzvot que je fais, j'attrape Akadosh Baruch Hu. Je prends Akadosh Baruch Hu. Bon, on va essayer de se soumettre à Akadosh Baruch Hu. On va essayer. Aremi Meila, dès qu'il essaye, la volonté, Nichlelet Navsho Beichudo Itbarer. Tout de suite, mon âme est liée à Akadosh Baruch Hu, est incluse avec Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, j'enlace le roi. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'eux. Ça veut dire que même si le roi a 1000 vêtements, j'ai pas besoin d'enlever chaque vêtement du roi, de dire, bon, maintenant je suis au 1000e vêtement après 999. Non. C'est fini, tu l'as fait. Après, ça va être seulement dans ma perception. Quelle différence entre une personne qui va enlacer un roi qui a 1000 vêtements et un roi qui va enlacer un roi qui a un vêtement? D'accord? La différence va être dans la perception de celui qui va enlacer. Mais l'acte est le même. J'ai toujours enlacé le roi. La différence va être dans ma perception. Est-ce que je le sens ou je le sens pas? S'il a un vêtement, même s'il a zéro vêtement, ben là je vais sentir grave, mais s'il a 1000 vêtements, je sentirai plus. Je crois que je vais enlacer un morceau de tissu. C'est la même chose avec le mitzvot pour nous. Qu'il suffit de vouloir, après il te dit, tu vas enlacer Kadosh Baruch Hu, c'est fini. Vehi prinat, alors pardon, dans les mots, de ruach haiti ruach ve amshir ruach. Ça c'est une phrase qui est très célèbre dans le Zohar, qui dit la chose suivante, qui dit que un esprit amène un autre esprit. Ça veut dire que quand moi je fais un effort, je montre à Kadosh Baruch Hu que j'ai envie de sentir comment c'est Kadosh Baruch Hu qui gère ma vie, comment Kadosh Baruch Hu comment le spirituel c'est la valeur la plus importante dans le monde, et bien quand je le fais, à Kadosh Baruch Hu de son côté, lui aussi il amène un esprit de son côté, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu donne un coup de pouce pour que je ressente réellement cette chose.
Réaction.
Ouais. Je sais pas, c'est comme, je reprends mon exemple du roi, c'est comme si par exemple je vais enlacer le roi avec 1000 vêtements, et le roi pour montrer qu'il est derrière, non il va pas se déshabiller. Il va donner un coup de bras, tu vois. C'est-à-dire, pour me dire, je suis là. Je suis derrière. Ça veut pas dire que il va se déshabiller. Il va donner un coup du style. Voilà, je te donne un signe que je suis là. Je sais que tu me vois pas, mais je suis là. Ruach haïté roi, va me chez Ruach. Vehi prina titiat mitzraim. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Quand on réfléchit en vérité, on voit que tout le judaïsme tourne autour de ça. cette volonté de quitter à chaque fois le matériel pour essayer de chercher quelque chose de spirituel. Toutes les mitzvot tournent autour de ça. Quand on réfléchit, toutes les mitzvot. Il n'y a pas une mitzvah qui tombe pas autour de ça. D'accord ? C'est de réaliser qu'il y a des valeurs plus importantes que notre valeur. Même une mitzvah matérielle comme la tzedaka, par exemple. Proche de la tzedaka. Proche de la tzedaka. D'accord ? C'est pas seulement parce que...
La table de la justice.
On dit qu'on avait expliqué dans le premier chapitre que chez l'égoïsme, il n'y a pas de vrai tzedaka. Mm-hmm. Parce qu'ils attendent toujours quelque chose en retour. C'est pas méchant, c'est la nature d'un homme.
Cadeau.
Mais un juif, il est capable de faire une vraie tzedaka. D'où ça vient ? Ça peut reprendre un juif une vraie tzedaka. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Parce qu'ils réalisent que même si j'ai de l'argent, d'accord, bah au Hachem, et qu'avec cet argent, j'aurais pu profiter, il y a des valeurs plus importantes que ça. Aider quelqu'un, c'est plus important. J'attends rien en retour. J'ai même la possibilité de faire que je ne veux pas qu'il soit au courant. Je ne veux pas que cette personne-là soit au courant. Ça veut dire que dans toutes les mitzvot, même les mitzvot les plus matérielles qu'on peut s'imaginer, toutes les mitzvot, tout tourne autour de ça. C'est quitter le matériel, d'accord, quitter le matériel pour aller vers le spirituel. Ça, ça s'appelle la sortie d'Égypte. C'est ça, c'est quand on nous dit que dans chaque génération et chaque jour, en vérité, on pourrait dire même à chaque instant, la personne doit avoir l'impression comme s'il est sorti aujourd'hui d'Égypte. Bon. Alors, il y a ici la demande à Kaen. Il y a une petite parenthèse qui dit après, et après je vais rajouter un petit point, on s'arrête. Avshi, velachen tiknu, parashat itset mitraim, veshat kreat shema, dafka. C'est pour ça que les chachamim ont instauré de faire la troisième, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire le troisième paragraphe du schéma qui parle de la sortie d'Égypte, au moment du Kriat Shema. Ah, chez Mitzvah Bifnei Atzma, bien que théoriquement, c'est Mitzvah séparé, comme j'explique au début du cours. Qu'est-ce qu'on explique au début du cours? On a dit que dans le schéma, il y a trois paragraphes. Deux premiers paragraphes, c'est écrit clairement, tu le feras Beshor Becha Ufkumecha, en te couchant et en te levant. Donc on doit les lire. Troisième paragraphe, c'est la sortie d'Égypte. On a appris que la sortie d'Égypte, il faut la mentionner aussi le jour et la nuit. Mais techniquement, la sortie d'Égypte, ça n'a rien à voir avec le schéma. Vous me suivez ? Le schéma. Le schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est on est en train de nous parler de l'importance d'aimer et de craindre, d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Et on nous explique l'importance qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu et que si on va faire les mitzvot, ben on va recevoir la bénédiction. Si on ne fera pas les mitzvot, ben malheureusement, ce sera le contraire. Troisième paragraphe du schéma, on parle de la sortie d'Égypte. Ok, tu m'as expliqué qu'on a l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte le matin et le soir. Mais on n'était pas obligé de le faire à côté du schéma, on aurait pu le faire au début de la tefila, à la fin de la tefila, techniquement il n'y a pas de raison. D'accord ? Et c'est une question qui est posée dans la Gemara, qui est l'état Bigmara ou Poskim. La Gemara, au début du traité Brachot, d'accord, page 12, elle pose cette question. La Gemara dit clairement qu'il n'y a pas de rapport. D'accord ? Alors il y a plusieurs réponses qui ont été données sur ça. Une des réponses qui a été donnée sur ça, pourquoi on parle de la sortie d'Égypte, c'est parce que, comme dans la deuxième mitzvah, dans le deuxième paragraphe du schéma, pardon, Dieu dit, si vous avez écouté mes mitzvot, je vous donnerai un salaire, et sinon, vous ne l'aurez pas. Alors, dans la troisième paragraphe du schéma, dans lequel on dit que se rappeler que grâce au tzitzit, on va se rappeler les maatiskerou vasitem et kol mitzvotai, ça va être une technique pour se rappeler des mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on l'a instauré, on les a mis l'une à côté de l'autre. Pour te dire, si tu veux avoir une technique, comment faire pour ne pas oublier les mitzvot,
regarde
tes tzitzit. Mais ça ne change pas qu'on n'a pas vraiment répondu à la question. Parce que là, on a parlé des tzitzit, mais on n'a pas parlé du rapport entre la sortie d'Égypte et le schéma. Il n'y a pas de rapport.
Parce que le Icar, c'est la sortie d'Égypte.
Voilà, le Icar du troisième paragraphe, c'est la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on l'a dit, c'est le Mouachra. Alors pourquoi on l'a dit ? Regardez comment le Mouachra l'a expliqué. Et là seulement, Yipne Shem Davar Echad Mamash. Avec ce qu'on a expliqué. C'est la même chose, c'est le même concept. Sortir d'Égypte, c'était quoi ? On a expliqué ce que ça veut dire, c'est sortir de l'emprisonnement de l'Égypte. Le schéma Israël, c'est quoi ? C'est sortir de son propre Égypte. Sortir de mon Égypte. Mon Égypte, c'est sortir de mes barrières. Mes barrières qui me disent que ce qui compte, c'est la matérialité. Je fais une mitzvah, je dis, écoute, Hachem Elokeinu Hachem Echad, qu'en vérité, la seule vraie valeur qu'il y a dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, schéma Israël, et les deux paragraphes du schéma Israël, et la sortie d'Égypte,
c'est le même concept.
C'est la même chose. On a maintenant la raison pourquoi ils ont instauré l'un côté
de l'autre. Dans la Torah, ils sont collés, les trois
Non, pas du tout. Aucun des trois est collé dans la Torah.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis, bon... Alors, qui a pris le...
C'est la Gemara Brachot, c'est depuis la Gemara Brachot.
Non, qui dans la Tfila, qui les a regroupés, rassemblés?
Depuis la Gemara, déjà.
Ah, dans la Gemara, oui. C'est déjà rassemblé.
Ouais. Puis le Pôle Gemara, on a instauré que le troisième paragraphe du schéma, il y a un moment où on faisait que deux.
D'accord. Voilà, c'est ça, je voulais...
Et après, à l'époque de la Gemara, on a rajouté le troisième. C'est Benzema qui a rajouté ? Non, c'est Benzema qui l'a mis...
Qui a expliqué Kol Yemei.
Oui, d'accord. Non, mais... Non,
qui a pris le... Voilà.
À l'époque, on avait l'obligation, depuis toujours, on avait l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Mais à l'époque, la Gemara, ils ont innové que cette obligation, on doit la coller au schéma Israël. Parce que théoriquement, la sortie d'Égypte, la parasha de la sortie d'Égypte, on aurait pu la faire au début ou à la fin de la Tfila.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire pour qui a fait qu'on l'a rassemblé dans la Tfila ?
Qui a dit, c'est à l'époque de Benzema qui a dit...
Benzema, il a dit qu'il faut le mentionner. Oui, il a dit qu'il faut le mentionner, mais Benzema n'a pas dit qu'il faut le faire en même temps que le schéma. Je sais pas qui l'a dit, je m'en rappelle plus qui c'est qui l'a dit. C'est Agmara, tu verras au tout début, je crois que page 12 ou 13 là-bas, c'est au tout début, c'est Agmara parle de ça. Donc là on a la réponse. C'est le même concept. Vechen, il va aller encore plus loin que ça. Besof parashat itiyat mitzrayim. Besof parashat itiyat mitzrayim. Mesayem gamken. Ani Hashem elokechen. Vainu gamken. Avec quoi on finit le schéma? Avec quoi on finit le schéma? Ani Hashem Elokechem, Dieu dit, je suis Hashem, votre Dieu. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit sur le terme votre Dieu? Ça veut dire quoi, mon Dieu? Ça veut dire quoi, votre Dieu? Ça veut dire que Dieu, il devient notre Dieu, qui nous appartient. Comme on avait dit, le Zohar, Veikrouli Trouma. Je suis votre Dieu, je vous appartiens. Donc ça veut dire que, ça c'est pourtant c'est pas le schéma, on était dans la troisième barrière du schéma.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on pouvait pas prendre même on ne pouvait pas ressembler si on ne voit pas sous le Zohar, finalement.
Oui, ah oui.
Il n'y a que sous cette façon-là qu'on peut rassembler le texte.
Sinon, on ne comprend pas.
Sinon, on ne peut pas.
Sinon, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, après, il y a des réponses, mais les réponses ne sont pas satisfaisantes à 100%. Mais là, cette réponse est vraiment satisfaisante, parce qu'on voit que c'est le même concept, c'est la même chose.
Tu peux préciser, Elokeinu, comment on doit comprendre Elokeinu ?
Shema Israël, Hashem Elokeinu. Hashem Elokeinu, Hashem, c'est Yud Kevavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est plus haut que la nature. Elokeinu, Elokeinu, ça vient du mot notre force, Elokim. Elokim, c'est la même valeur numérique que 86, Hateva. Hateva, ça veut dire la nature. Elokim en hébreu, ça veut dire une force. Ça veut dire notre force. Yudke Vavke, donc Hachem Yudke Vavke. Yudke Vavke, ça correspond au nom d'Akadosh Baruch Hu dans les trois temps. Aya, Ove, Veillé, passé, présent, futur. Elokeinu, ça veut dire notre Dieu, ça veut dire notre force physique. Qu'est-ce qu'on dit ? Écoute Israël, Hachem Elokeinu, ce Hachem que tu connais qui dépasse la nature, qui est passé, présent, futur en même temps, Elokeinu, c'est notre force. Et il continue après, Hachem, ce Hachem que tu connais qui est passé, présent, futur et qu'a priori, il a rien à voir avec nous, Echad, c'est ce Hachem-là qui remplit le monde, les sept cieux et la terre, les quatre points cardinaux de la terre. Ça c'est le concept du schéma. En vérité, quand on réfléchit, ça c'est le concept de toute la Torah. De réaliser que il y a quelque chose qui est plus haut que nous. Et que ça se joue pas ici, ça se joue en haut. C'est-à-dire que nous, on est seulement en train de bouger les manettes. D'accord ? Mais en vérité, où on va comprendre ce qui se passe, c'est en haut. On comprend pas. Là, on comprend pas ce qui se passe. Mais dans le schéma, on retrouve ça de manière beaucoup plus forte. Parce que là, on dit clairement, Hachem Elokeinu. On dit qu'Akadosh Baruch, que tout cet emprisonnement que je me suis habitué, l'Égypte que je me suis habitué, ça veut dire, je me dis que le plus important, c'est ma Parnassa, c'est mes petits amis, etc. Je dis que tout ça, c'est rien du tout. Hachem Elokeinu, que tout ça, en vérité, pas que c'est rien, ça a son importance. Mais le plus important, c'est quoi ? Elokeinu.
D'accord.
Hachem Elokeinu.
Pareil.
Lui répond, Hachem
Elokeinu. Alors, j'ai pas fini avec Hachem Elokeinu. Le terme de Hachem Elokeinu, on a dit, c'est le fait d'être capable de dire que Dieu nous appartient. Voilà, ça veut dire que ce Dieu-là, qui normalement est inaccessible, je vais l'enlacer. Il va m'appartenir. C'est mon Dieu. Ça veut dire qu'il s'est donné à moi. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui la sortie d'Égypte, ça veut dire sortir de ses limites, ça veut dire quitter le matériel, quitter les notions matérielles. Chaque fois qu'une personne, par exemple, a envie de faire quelque chose, il a envie de se faire un plaisir, et il va faire un effort, il va dire, bon, je n'ai pas envie de faire ce plaisir, je vais aller à la plage, je vais étudier un cours de Torah, je vais ouvrir un livre, je vais étudier quelque chose de Torah. Il vient de sortir d'Égypte. Ça, c'est un con. Ça s'arrête. Le concept de l'Égypte.
Et s'il fait les deux ?
S'il fait les deux, c'est-à-dire ?
Il va à la plage avec son livre de Torah.
Il étudie à la plage ?
Peut-être pas à la plage, mais se faire un kiff tout en étudiant.
Alors, il est sorti partiellement d'Égypte.
Donc, il faut se faire des kiffs.
Non, moi, j'ai cru que tu me posais la question contraire. Qu'est-ce qui se passe s'il fait le kiff et il rentre en Égypte ?
Ah oui, ça.
Oui, parce qu'on peut rentrer en Égypte aussi. comprends, on peut vouloir le matériel et rentrer dans le matériel. On peut, en fait.
C'est pas grave, ça, qu'il nous remercie à chef de nous avoir suspecté cette idée. Telle qu'est comme ça.
De bracha.
Ouais, c'est pas le LM.
C'est le. Bien sûr qu'il y a une bracha. La bracha de tous les matins, Gaël Israël. Ouais. La bracha du soir aussi, HKVNU, juste avant HKVNU, on remerciait que on bénit
avec le roi.
On parle d'Égypte.
C'est le même concept.
On parle d'Égypte.
De manière plus simple. Aujourd'hui, aller en Égypte, physiquement.
Oui.
Comment c'est perçu?
Aller en Égypte?
Ouais. Je parle pas de la dimension
spirituelle,
hein. Je parle bien d'y aller.
Aller en Égypte, normalement, c'est assourd. Attendez, je vais vous dire. Aller en Égypte, en venant de l'État d'Israël, c'est assourd.
Ah ouais, ce que font les Israéliens.
D'accord.
Quand ils passent.
À Sukkot,
c'est pas l'Égypte, c'est Tabac d'Israël.
Ouais. Ouais.
Après, voilà, bon, c'est une autre question. Maintenant, aller en Égypte, c'est assourd. D'Israël.
Et encore, je suis pas sûr que c'est Israël. Déjà, là, c'est déjà pas Israël.
Maïmonide, je sais que Maïmonide, il est en Israël. Et que d'Israël, il est parti en Égypte. Alors, on ne sait pas si Maïmonide est passé par un autre pays avant d'aller en Égypte. C'est fort possible. Mais en tout cas, on sait que depuis qu'il était en Égypte, chaque lettre qu'il écrivait, il finit en disant mon nom qui a fait une faute, enfin il dit son nom quoi, Moshe Ben Maïmon, qui a fait une faute et qui est en Égypte. Enfin j'ai plus le terme exact, mais il disait. Ça veut dire qu'il sentait ça comme un problème. Bon, il était en Égypte parce que je crois qu'on lui a proposé une parnassa là-bas, il avait une protection parce que partout il était recherché, donc on l'a protégé là-bas, mais en tout cas ça le dérangeait. Donc elle, techniquement aujourd'hui elle est en Égypte, je sais pas. Moi c'est comme j'étais en Italie il y a 3 ans, mais j'ai pas mis les pieds à Rome.
C'est dommage parce qu'il y a une synagogue magnifique.
J'étais à Florence.
Oui, parce qu'à Florence, bien qu'à Florence, il y a des églises aussi. Hein.
Et il y a une très belle synagogue.
Mais je sais pas, Rome, tu vois, il y a des choses comme ça que ça. Il y a un blocage.
Il y a le Vatican là-bas.
Non, il y a un blocage, tu vois, quand on va dans les textes, Rome, ils nous ont fait souffrir, tu vois. Bien que bon, Florence aussi, ils ont dû nous faire souffrir.
Oh, il y a plus beaucoup d'endroits où ils ont pas fait souffrir, je sais pas.
Non, mais Rome, c'est quand même.
En Alaska et encore.
Le Beth Amikdash et tout, ça dérange. Ouais. Enfin, moi, ça me dérange. J'ai pas voulu mettre les pieds là-bas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est focalisé sur un seul point. On s'est focalisé sur le point qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte aujourd'hui. On a dit que sortie d'Égypte aujourd'hui, ça veut dire quitter le matériel, pour aller vers le spirituel. Et ça, en vérité, quand on réfléchit, les applications sont sans fin. Voilà, je vous dis, je fais un effort, j'ouvre un livre de Torah alors que j'aurais pu faire un plaisir matériel, je suis sorti d'Égypte. C'est sans fin. Mais on le retrouve particulièrement au moment du schéma. Par contre, ce qu'on n'a pas encore expliqué, on n'a toujours pas expliqué en quoi le fait de sortir d'Égypte, c'est-à-dire en quoi le fait de quitter le matériel pour aller vers le spirituel, ça peut nous concerner personnellement. Je peux comprendre que le concept, on le sent ça, que le concept d'une mitzvah en général, quand je fais une mitzvah, je sens que on sent qu'on quitte le monde, c'est un petit peu le sentiment qu'on a le Shabbat.
Je pensais que tu parlais de la sortie d'Égypte.
Non,
comment on fait pour le
sentir le monde? Non, la sortie d'Égypte, notre sortie d'Égypte quotidienne, on peut le sentir. Voilà, vous voulez un exemple, le Shabbat aussi. Le Shabbat, bon, bien sûr, on peut rester dans les affaires, celui qui va être là tout le Shabbat à lire des journaux, etc., il sera pas dans le Shabbat, mais quand on veut, on voit qu'assez facilement, on peut se détacher de la semaine. Donc ça s'appelle sortir d'Égypte. Ça s'appelle sortir d'Égypte. Mais on n'a toujours pas expliqué en quoi ça va nous amener un sentiment de Hakarat Hatov, de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Comment? Rappelez-vous, on a expliqué qu'une technique pour servir Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la technique? C'est qu'il faut arriver à un sentiment de reconnaissance, que comme Dieu m'a donné quelque chose, je lui dois quelque chose. Et donc je ne peux pas me permettre de faire une Azara. Ça, ce point-là, on ne l'a pas encore expliqué. On l'a pas encore expliqué, c'est pas parce que j'ai fait Shema Israël le matin, et que j'ai senti que Dieu gérait ma vie, que c'est pour ça que je suis reconnaissant à Dieu, et que dorénavant, je vais être gêné à faire une Azara. Ça, on expliquera la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est une tête qui se lève. D'accord. 19 qui se lève. Donc je crois qu'ils ont fait ça au sur d'hiver, c'est ça?
Sur d'hiver.
Alors, je vous invite à venir. C'est très intéressant. C'est autour de la Chassidoute. Il y a beaucoup d'orateurs qui parlent autour de la Chassidoute. Donc, c'est à 20h30 au sur d'hiver. Je finis. Tu vas.
Moi, je vais souvent. Je vais chaque année.
Chaque fois, c'est intéressant.
C'est vrai que c'est bien. C'est bien parce qu'il y a un bon orchestre. Ça aussi. Non, mon chien, c'est non, pas le principe. Je suis même pas sûr. Mais. Non.
Bon.
Mais t'as bien raison, on pourrait aussi.
Donc il n'y aura pas cours, donc le.
S'il n'y a pas la lame croûte.
Donc au lieu de venir au cours, il faut aller là-bas.
Excuse-moi.
Ouais.
Ani Hachem et le Kechem, c'est la fin du schéma.
C'est une réponse, Hachem Israël, Hachem Elkenou.
C'est la suite. C'est pas seulement une réponse, c'est la suite. Comme il dit, Akol Inanechad, c'est une seule chose.
Entre quoi et quoi? Qu'est-ce qui est une seule chose?
C'est le même concept. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël? Dans le schéma Israël, on dit qu'en vérité, la vraie valeur dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui gère tout en vérité, même si on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on te dit quand on dit Ani Hachem Elokechem? On parle de la sortie d'Égypte. Donc, le fait de dire ça, ça veut dire sortir de son Égypte. Et qu'est-ce que je dis? Ani Hachem Elokechem, Dieu dit, je suis votre Dieu. Ça veut dire Hachem, ce Hachem que vous croyez qui est passé, présent, futur et qui dépasse tout, il est votre Dieu. Donc c'est le même concept. C'est exactement le même concept. Sur tout le schéma, c'est la même ligne. Donc voilà pourquoi les trois paragraphes sont là.
C'est logique,
c'est une suite logique. Vous faites Hachem sur le concept de la Karatatov, on continuera dans 2 semaines, si Dieu veut.